Le directeur. J'étais étendu tout habillé sur le lit lorsque le lendemain de mon arrivée, le directeur de la prison vint me visiter. Il était accompagné de deux soldats. « Vous dormez trop, c'est défendu !» me dit-il en franchissant le seuil. Il s'arrêta au milieu de la cellule dans la pose d'un général qui inspecterait des fortifications ennemies. Puis il huma l'air de côté et d'autre, il s'approcha de la fenêtre, palpa le mur et la table, fit enfin mine de se retirer. Tout à coup, je le vis fixer son attention sur le plancher de la cellule. Le parquet était ciré tous les jours par un détenu pour crime de droit commun. Le directeur se baissa, prenant cette fois la pose d'un ingénieur qui ferait des travaux de nivellement, ses sourcils se froncèrent, il se retourna vers moi avec les yeux étincelants de colère. « Qu'est-ce que cela ?» Je le regardais de travers, mais je me tus. « Allez, que je ne vois plus rien de pareil, entendez-vous ? Parkhonov, un torchon !» Le Staroï se précipita dehors pour remplir l'ordre donné, et le directeur quitta la cellule avec majesté. J'étais curieux de savoir ce qui avait pu encolérer à tel point mon geôlier en et je ne vis que quelques gouttes que le Staroï avait répandues en m'apportant de l'eau le matin. Je fus tout étonné de l'esprit d'observation du directeur. C'est étrange que maintenant, lorsque je m'efforce de me rappeler ses traits, je ne le puis pas. Je me souviens seulement d'une petite tête couverte de cheveux crépus qui formait un véritable chignon sur la nuque. La face du directeur était d'un rouge pourceau et il produisait l'impression d'un homme qui serait constamment en colère. Son uniforme bordé d'astrakhan au collet pendait disgracieusement sur lui. Il relevait très souvent les épaules en avançant la poitrine comme pour se donner une tournure plus militaire. Le matin, il entrait chez moi, la casquette sur la tête et les mains dans les poches. Ses visites se répétaient chaque jour et chaque jour, il trouvait de nouveaux sujets de reproche. Je répondais à ses remontrances par un mutisme imperturbable, m'efforçant par là de lui prouver qu'il n'existait pour ainsi dire pas pour moi. Mais petit à petit, ses observations, en commençant par m'agacer, avaient fini par m'exaspérer pour tout de bon. Après le départ du directeur, je me mettais à penser à lui involontairement et longuement. Je n'avais absolument rien à faire. Mon voisin ne répondait plus que rarement aux coups que je frappais à son mur. Et même quand il me répondait, il le faisait comme à contre-cœur et d'une manière désordonnée. Un jour, je frappais. « Pourquoi te tais-tu ? » « Malade !» répondit-il, ce fut tout. Je m'éloignais du mur. Tout à coup, j'entendis mon voisin qui frappait vite, vite, un vrai roulement. Je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ans, et je suis perdu, perdu. Mais tu sortiras de prison, l'interrompis-je, tâchant de faire taire ses pensées lugubres. Ah! Que j'aurais voulu lui exprimer une tendre pitié. « Non, répondit-il, je ne verrai plus la lumière du jour, terminai-je mentalement, frappant en même temps. Un, ce qui voulait dire j'ai compris. Après cela, mon pauvre voisin se tut à jamais. Qu'advint-il de lui ? Je ne l'ai jamais su. Je crois qu'il mourut en prison. Ma seule récréation ce temps-là était de quitter ma cage lorsqu'on m'amenait au lieu. Ma cellule n'avait pas encore atteint le dernier degré de perfectionnement. Je ressentais un étrange sentiment d'orgueil lorsque Pakhomov était obligé de répondre à mes appels et de me laisser sortir. Je n'eus jamais l'occasion de m'approcher d'aucune autre cellule, ni d'échanger la moindre parole avec mes co-détenus. Le Staroï me suivait comme mon ombre. Mais chaque fois que j'étais dehors dans le couloir, je me sentais plus heureux quand même. Mes pas étaient plus assurés que d'ordinaire. Je marchais lentement, aussi lentement que possible. J'entendais les autres faire la même chose à leur sortie. Il s'établissait une entente facile et tacite entre nous à l'aide du bruit de nos pas. Il le fait pour que je l'entende, me disais-je en prêtant l'oreille au pas accentué d'un détenu qui passait devant ma porte. À mon tour, je frappai des pieds aussi fort que je le pouvais en traversant le couloir comme pour dire « Écoutez, écoutez mes amis, c'est moi qui passe près de vous. » La nourriture que l'on me donnait dans cette nouvelle prison était des plus mauvaises. Le gouvernement fixait 10 kopecks par jour à chaque détenu, mais l'administration en dépensait moins. On m'apportait quelque chose d'extrêmement liquide qui devait être du chichi, 1,5 livre de pain de seigle tout à fait noir et rempli de grains de sable, une petite écuelle de gruau bouilli de sarrasin tout rempli de déjections de souris, voilà de quoi se composait mon menu. Je ne touchais que rarement à cette pitance et me contentais du pain de seigle. Plus tard, les 10 kopecks me furent journellement donnés en main et j'eus la permission de les dépenser à ma guise en envoyant le Staroï m'acheter quelque chose en dehors de la prison. Le directeur, pourtant, donnait de jour en jour plus d'ouvrage à mon cerveau. Il oubliait parfois de nous faire distribuer notre pension alimentaire et nous restions des journées entières à jeun. Quelquefois, la porte de ma cellule s'ouvrait avec fracas pendant la nuit et mon geôlier, je parle toujours du directeur, me réprimandait grossièrement pour avoir trop abaissé la flamme de la lampe. Tous les jours, il découvrait avec horreur que l'air de ma cellule était mauvais et faisait ouvrir la fenêtre qu'on laissait ouverte pendant des heures malgré le froid d'hiver vigoureux qui sévissait alors. Ces persécutions me mettaient hors de moi, d'autant plus qu'elles se répétaient plusieurs fois par jour, sous une forme ou sous une autre. Petit à petit, je ne pus, littéralement parlant, penser à rien d'autre qu'au directeur. Tout ce qui m'entourait me le rappelait. Je rêvais de lui en dormant. Il se changeait en une espèce de cauchemar, en une puissance fatale qui, contre mon propre gré, attirait à elle toute mon attention. Tous les matins, au moment où il entrait, mon cœur se mettait à battre d'un mouvement accéléré. Je me disais « Bah, il y aura quelque chose, comme toujours. » Et je restais des heures entières plongé dans une rêverie fiévreuse, imaginant les moyens les plus fantastiques, les plus impossibles de me venger. « Alors les rôles seront changés, me disais-je. Il s'abaissera devant moi. Il me baisera les pieds. Il me dira qu'il a une femme, des enfants, une vieille mère et qu'il leur est attaché. Il me demandera de l'épargner, de pardonner. Alors je lui dirai tout, tout. Je lui expliquerai ce qu'ils sont eux tous, lui et ceux qui m'ont enfermé ici, et je le chasserai de ma présence. Ah, quelquefois ma vengeance imaginaire allait plus loin. Cela arrivait immédiatement après quelque avarie plus grossière que d'habitude. Alors je m'adressais un discours à moi-même comme à un tiers. Et tu lui pardonnes après cela? Tu t'efforces de le disculper? Lorsque je revenais à moi, après ces élucubrations, je ressentais de la douleur et de la honte. Je comprenais que je m'abrutissais et que je devenais idiot. Un jour, j'entendis du bruit et des éclats de voix dans la cellule de mon voisin. On ouvrait, on refermait la porte avec fracas. On emportait quelque chose. Je croyais le deviner au lourd retentissement des pas de plusieurs personnes. Puis tout redevint calme. Craignant que l'état de santé de mon voisin eût empiré, je frappais à mon mur. Pas de réponse. Alors je frappais de plus en plus fort. Soudain, j'entendis soulever le carré de fer blanc qui masquait de dehors le Judas. Puis Parkhomov ouvrit ma porte toute grande en disant « Venez !» Je le suivis dans le couloir, mais au moment où je me préparais à descendre l'escalier, je croyais qu'on me menait au greffe. Le Staroï m'arrêta rudement. « Par ici !» Il me fit monter au quatrième étage dont toutes les cellules étaient vides. Dans celle où il me fit entrer, tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Oh, on voyait bien qu'il y avait longtemps que personne ne l'avait habité. Je me sentis comme un naufragé jeté sans pitié sur les sables d'une île déserte. Ma tristesse changeait en désespoir. Mais je serais con.